Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont manger la galette des rois, puisque selon les statistiques, 90% des Français participent à cette agréable tradition, si agréable d'ailleurs, et si bien ancrée, que certains tirent même les rois 5 ou 6 fois, voire plus, dans le mois de janvier. Et nous-mêmes, nous avons précédé le jour de l'Épiphanie en mangeant hier la galette après le concert du Nouvel An. Mais combien sommes-nous à relier cette tradition de tirer les rois avec l'épisode biblique lu tout à l'heure? Et pour aller un peu plus loin, combien sommes-nous à faire la distinction entre l'épisode biblique tel qu'il est écrit dans l'Évangile et la légende dorée qui s'est développée autour de l'adoration des mages? Alors réexaminons un peu ce passage de l'Évangile de Matthieu. Essayons de le lire avec des yeux neufs. Et c'est une tâche un peu difficile, car cet épisode, présent seulement dans l'Évangile de Matthieu, a donné lieu à beaucoup de développements, d'illustrations, par exemple chez les peintres de la Renaissance. Il a inspiré entre autres Michel-Ange, Léonard de Vinci, Dürer, Botticelli. Et dans ce cas-là, leurs œuvres portent généralement le titre « L'adoration des mages ». Et pourtant, il y a quelque chose là d'un petit peu paradoxal, car s'il est vrai que les mages se sont mis en route pour adorer le roi des Juifs, l'adoration proprement dite dans notre texte n'occupe qu'un verset. Un verset sur 12, verset 11, je le relis. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et étant tombés à genoux, ils se prosternèrent devant lui, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ensuite, les mages repartent. Ils repartent chez eux. Donc ce qu'on oublie un peu facilement, c'est que pour que cette adoration ait lieu, il a fallu d'abord que les mages veillent, qu'ils soient attentifs au mouvement des astres. Les mages, ce sont en effet des savants, à la fois astrologues et astronomes. Et il a donc fallu qu'ils observent les astres, qu'ils les interprètent avec justesse, puis qu'ils se mettent en route, parcourent des centaines de kilomètres, s'informent sur le lieu exact de la naissance. Le récit complet de l'Évangile de Matthieu comprend 12 versets, et les 10 qui précèdent le verset proprement dit de l'adoration sont en fait consacrés à la recherche du lieu précis de la naissance de l'enfant. Mais c'est vrai aussi que ce moment de l'adoration, ces cadeaux somptueux qui l'accompagnent, somptueux et en effet bien mieux adaptés à un roi qu'à un bébé, tout cela a favorisé le développement de la légende. Légende car, on le voit dans la Bible, on ne nous parle aucunement de roi. La Bible ne nous dit pas davantage que les mages étaient 3. Cela découle probablement du fait qu'il y a 3 cadeaux. Mais nous avons tous peu ou prou en tête l'image de ces rois en belle procession. Ils ne sont pas du tout couverts de poussière, hein, malgré les kilomètres qu'ils ont parcourus. Au contraire, ils sont resplendissants, richement vêtus, de couleurs chatoyantes. C'est ainsi donc qu'on les imagine, qu'on les représente la plupart du temps. Mais ce n'est pas cette belle procession que raconte l'Évangile. Il relate essentiellement, comme nous l'avons dit, la recherche par les mages de l'enfant. et leur voyage vers ce roi des Juifs qu'ils veulent adorer. On est tellement formaté par la légende qu'on en oublierait presque les éléments un peu étranges que comprend ce récit. Et il y en a plusieurs, même s'ils ne sont étranges qu'en apparence, car finalement cette belle histoire, elle est déjà toute pleine de l'esprit de l'Évangile. Le premier de ces éléments curieux, ce sont les mages. C'est le fait que la recherche du roi des Juifs se fasse par des mages, c'est-à-dire des spécialistes des étoiles, qui ont observé le ciel et ont vu dans une étoile le signe de la naissance de Jésus. Est-ce que Matthieu, par hasard, donnerait crédit à l'astrologie ? Rien ne nous semble plus éloigné de notre foi que la croyance dans les prédictions des horoscopes ou dans la magie, puisqu'après tout, mage et magie, c'est la même racine. Non, ce à quoi nous invite ici l'Évangile, ce n'est pas à valoriser l'astrologie, mais à respecter les mages dans leur altérité, dans leur différence, dans leur légitimité à adorer le roi des Juifs. Ce que nous dit leur venue, le fait qu'ils se sont mis en marche pour adorer le roi des Juifs, c'est que le roi des Juifs n'est pas le roi que des Juifs, ni celui d'un territoire géographiquement limité. Ces mages viennent d'Orient. Ce sont des étrangers et des païens. Et leur venue préfigure ce qui va être le cœur du message chrétien et que Paul nous rappelle, par exemple, dans la lettre aux Galates, passage connu. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre. » etc. Ou ce qu'on voit aussi dans le passage, le verset de la lettre aux Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Et en effet, Jésus n'est pas venu pour un club réservé de croyants, juifs ou autres, pour des élus refermés sur eux-mêmes. Jésus est venu pour le collecteur d'impôts, comme pour la prostituée, pour le centurion romain, comme pour la samaritaine. Il est venu, il est là, pour chacun de nous, qui que nous soyons, et cet accueil inconditionnel qu'il nous offre est aussi ce à quoi il nous appelle. Ces mages viennent donc d'Orient, une expédition lointaine, probablement plusieurs semaines de voyage, peut-être plusieurs mois, à dos de chameaux, de mulets, à pied. D'où viennent-ils précisément? On ne le sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais ce qui nous est dit, par contre, c'est que s'ils savent que le roi des Juifs est né, ils ne savent pas où exactement. Alors ils se rendent à Jérusalem, lieu jugé sans doute plus approprié à la naissance d'un roi, ou alors tout simplement lieu où l'on a plus de chances de trouver des informations. Les mages savent donc que l'enfant est né, mais ne savent pas où. Et pourtant, ils se sont mis en marche. À Jérusalem, à leur arrivée, Hérode rassemble les grands prêtres, les scribes. Eux, ils savent, grâce au prophète Michée, que c'est à Bethléem que le roi des Juifs doit naître. Mais c'est par les mages qu'ils apprennent que cette naissance a eu lieu. Ils pourraient donc se rendre à Bethléem avec les mages, ou parallèlement à eux. Ils ne le font pas. Voilà qui est bien étonnant. Des païens vont faire des centaines de kilomètres pour adorer le roi des Juifs, et les grands prêtres, qui vivent à proximité, entre Jérusalem et Bethléem, il y a peut-être 2 heures de marche, eux ne bougent pas. Cela a de quoi nous étonner. Quoi que nous sachions, par l'Évangile ou par l'histoire avec un grand H, que les détenteurs de la doctrine, de la tradition, ne sont pas forcément ceux qui témoignent de leur foi par leurs actes. Parfois, ils sont figés dans l'observance de lois religieuses, sûrs de leurs prérogatives de prêtres, du pouvoir que leur donne leur connaissance. Vous voyez, par exemple, ils sont capables de citer par cœur le verset de Michée, verset qui permet donc de situer la naissance de Jésus. Ils connaissent ce verset, et pourtant, ces grands prêtres et ces scribes ne sont pas prêts à se laisser bouleverser ou simplement dérangés dans leurs certitudes et leurs habitudes, dans leur idée peut-être de ce que devrait être le roi des Juifs. Ils ne sont pas prêts à vivre la foi comme aventure, comme risque, bien que l'Écriture nous y invite, et ce dès le début avec Abraham, ou ici même avec les mages. Les mages ont vu une étoile, ils y ont lu un signe, ils ont reçu un appel et ils ont accepté de se laisser dérouter par cette nouvelle, de se laisser traverser par elle. Ils se sont mis en route, portés par l'espérance, par la promesse d'un roi dans ce qui n'est encore qu'un bébé. Et ils s'en repartent, avertis secrètement par Dieu, qui se manifeste dans leurs songes après ce moment de joie qui les bouleverse. Oui, Jésus est venu sur cette terre, mais seuls les mages ou les bergers, dans l'évangile de Luc, ont vu la lumière qui annonçait sa venue. Des étrangers, ou alors des gens simples, tous n'ont pas veillé. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie, dira Jean. Et qu'en est-il de nous ? L'attendons-nous, cette lumière ? Sommes-nous prêts à accueillir Jésus dans nos vies, à le suivre, à nous laisser dérouter et transformer par lui ? C'est en tout cas ce que je nous souhaite pour cette année nouvelle. Puisse cette lumière vous porter et vous transporter. Amen.